Alors on va poursuivre encore un cours Bezrat Hashem sur la fête de Pessah. Alors pour expliquer comment être des hommes libres à Pessah, ça consiste quoi à être un homme libre? Alors je rappelle, on avait dit plusieurs fois, on dit dans la Gada, Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo kilu yatsa ata mitzrayim. C'est-à-dire que de tout temps, toujours, un homme est tenu de considérer, de prendre conscience comme si lui-même est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'à chaque année, on a une obligation de considérer que nous-mêmes, on est sorti d'Égypte. On a déjà expliqué dans les cours précédents, ça consiste à quoi? De se libérer de sa vérode, de ses vices, de ses défauts, de ses habitudes, etc. Maintenant, on va essayer d'expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem, comment devenir des hommes libres dans une optique, et on va dire, plus positive en élévation. Je vais expliquer. Donc, on a expliqué jusqu'à présent comment sortir de l'esclavage, de l'asservissement, de la servitude par rapport à ses défauts, à ses avérots, ses vices, etc. Maintenant, on va expliquer comment élever le plafond de ses ambitions et aspirations spirituelles et morales. Donc, alors, imaginez. Lorsque quelqu'un veut progresser, veut avancer, quelqu'un veut commencer à faire la Torah et les mitzvot, veut faire la tefila, veut étudier la Torah, top. Lorsqu'on veut déjà progresser, alors qu'est-ce qu'on imagine, par exemple, une journée réussie dans la Torah et les mitzvot? Si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi pour toi, dis-moi, fais-moi l'énoncé d'une journée la plus réussie que tu peux imaginer dans la Torah et les mitzvot et la tefila. Alors chacun, il a plus ou moins un schéma, une image dans son inconscient ou même dans son conscient. Ça consiste à quoi une journée réussie dans la Torah et les mitzvot? Par exemple, ça peut consister à ce que je me lève tôt le matin, je fais bien la tefila, ensuite j'étudie bien pendant quelques heures, etc. Je fais les mitzvot dans la joie, une concentration parfaite, etc. Chacun, il a un schéma plus ou moins déterminé. Ça consiste à quoi une journée réussie dans la Torah et les mitzvot? Et cela, en général, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'expérience vécue auparavant. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux te rappeler des tefillot extraordinaires que tu as eues pendant la fête de Rosh Hashanah, ou alors de Kippour, etc. Et comme tu as fait une tefila extraordinaire, alors pour toi, la meilleure tefila, c'est lorsque tu es bien concentré à Yom Kippour. Alors quand tu veux t'avancer, tu espères faire demain après-demain une tefila qui va être comparable, semblable à celle de Kippour. Bon, ça c'est bien, mais tu vas déterminer plus ou moins le plafond de ta tefila selon la journée du Yom Kippour de l'an dernier. Même dans le domaine qui n'est pas directement la Torah. Quelqu'un qui va entreprendre de faire une affaire. Il ouvre un restaurant, il ouvre une boîte, une entreprise. Et qu'est-ce qu'il espère réaliser? Qu'est-ce qu'il espère créer? Dans quelle mesure, quelle dimension il va espérer réussir dans ce qu'il va entreprendre? Alors chacun, il a aussi des schémas plus ou moins déterminés. Quelle est la réussite moyenne et maximale, etc., qu'il va imaginer. Et cela aussi, en général, ça dépend de l'expérience vécue, ou ça dépend de ce que nous ont raconté les camarades, etc. Mais chacun, il a un plafond bien déterminé. Et là, vient la fête de Pessah, et nous dit, attention, dans ce domaine-là, bien souvent, on se trompe. C'est-à-dire que le plafond que tu as imaginé, que tu as placé, que tu as déterminé, eh bien, tu te trompes. Parce qu'en fait, en réalité, tu peux arriver à des niveaux bien plus élevés que tu n'imagines. Tu imagines la meilleure tefila comme ci, comme cela, eh bien tu peux arriver 10 fois, 50 fois, 1000 fois plus. Tu imagines une heure de Torah, c'est quoi? Tu te concentres vraiment à fond, tu comprends bien ta Gemara, ton Tosfot, etc. Bon, c'est vrai, c'est une chose extraordinaire en soi, mais sache que tu peux arriver bien plus que cela. Tu t'imagines ton potentiel, ta faculté de te maîtriser, de faire les mitzvot, de ne pas faire de l'avérot, tu t'imagines que tu as une possibilité, des capacités qui sont comme ci, comme cela. Si on te dit quel est le maximum de ta capacité, de ton potentiel, eh bien tu vas dire, eh bien je pourrais réaliser ci, cela et cela. Alors, ça aussi, c'est extraordinaire. Mais très souvent, notre plafond, il est très, très bas. Pourquoi? Parce que bien souvent, on se sous-estime, on ne connaît même pas nos capacités personnelles. Alors, je vais expliquer. C'est que l'être humain, bien souvent, il ne vit pas dans les facultés les plus élevées de sa personnalité. Mais il vit dans sa propre cave. Comme quelqu'un qui a un château extraordinaire dans lequel il y a une cave, un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, ensuite il y a une terrasse, etc. Eh bien, un être humain, il peut vivre dans la cave pendant des mois et des années sans savoir qu'il a un château extraordinaire. Et c'est bien dommage. Parce que si, rien qu'il sortait de cette cave, il pourrait admirer, contempler ce rez-de-chaussée, premier étage, cette terrasse, ce jardin, cette piscine, etc. Tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans sa villa. Et bien souvent, c'est ce qu'on fait lorsque on va résider, on va rester constamment dans sa propre cave. C'est-à-dire quoi, sa cave? Eh bien, on vit avec nos défauts et nos vices. On est constamment en train de répéter, de rabâcher ce que l'autre nous a dit, nous a pas dit. On a été vexé, offensé de telle ou telle parole, de telle chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été réalisée, etc. Et bien souvent, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et le plus grave encore, c'est qu'on n'exploite pas, on n'utilise pas le potentiel qu'on a, les qualités qu'Hachem nous a données. Comme disait Rabbi Sofer Inter, un homme qui ne connaît pas ses défauts, ses vices, c'est grave. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi réparer, quoi arranger. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités de cœur, ses vertus, c'est encore plus grave. Pourquoi ? C'est pareil à un artisan menuisier qui ne sait pas utiliser les instruments de travail qu'il a. Et donc, il ne pourra pas avancer. Il ne pourra pas réparer ce qu'il doit réparer et arranger parce qu'il ne connaît pas ses outils. Donc, pour nous aussi, si on ne connaît pas nos qualités et nos vertus, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire que lorsqu'on vit dans sa cave, on est constamment en train de vivre, d'être dévoré par nos défauts et nos vices, c'est comme si on vit dans notre cave et on a oublié, on a fait abstraction de ces étages extraordinaires qu'on a en soi, de ces qualités, de ces vertus extraordinaires qu'on a en soi, c'est bien dommage. Ça, c'est une dimension de bas en haut. Tu as une autre dimension, c'est lorsqu'on avance, lorsqu'on progresse, lorsqu'on s'améliore. Avec quelle vitesse on avance, on progresse ? Comparer cela à quelqu'un qui prend une voiture et qui connaît que la première vitesse. Alors, il est bien content parce qu'il roule plus vite que s'il était à pied ou en trottinette, mais c'est bien dommage parce qu'il fait constamment du 15 ou du 20 à l'heure. S'il avait passé la 4e, 5e vitesse, eh bien il ferait 150, 200 à l'heure. Pour nous, c'est pareil. C'est que si déjà on avance dans la Torah, les mitzvot, la tefila, la tshuva, avec quelle vitesse on avance ? Est-ce qu'on avance vite ou alors on est trop lent, des fois on est anesthésié, on est endormi, on est indifférent. Et automatiquement, on avance très lentement, on n'arrive pas à exploiter le potentiel qu'on a en soi. Alors en effet, qu'est-ce qui s'est passé à Pessah ? À Pessah, les Bnei Israël étaient dans l'Égypte. En Égypte, au fin fond de la Touma. Alors il faut se rappeler que l'Égypte, c'était la première puissance mondiale. Le pays le plus développé en scientifique, en philosophie, etc., dans lequel il y avait le plus de Yitzhara, le plus de Touma que dans le monde entier. Les Bnei Israël étaient vraiment au fin fond de la Touma, ce qu'on appelle le 49 degrés de Touma. Et en l'espace de quelques temps, quelques semaines, ils sont élevés, n'est-ce pas, jusqu'au 49 niveau de Kdusha, jusqu'à ce qu'ils ont pu, en traversant la mer Rouge, dire Zéli Vandéou. C'est-à-dire qu'ils ont pu comme montrer Hachem du doigt. Et dire Ve'an Ve'u, ça veut dire Anivahu. Ils ont voulu comme ressembler à Hachem. Anivahu, ayez domelo, je veux ressembler à Hachem. Puisqu'en effet, du Ramchal, c'était là un des buts essentiels de la création du monde, la création de l'être humain, que Hachem voulait créer un homme qui puisse lui ressembler. D'ailleurs, c'est écrit dans Tehilim, Vatechasreu, Me'at Melokim. C'est-à-dire que Hachem, en créant Adam Rishon, eh bien, il a créé avec des forces, des facultés qui étaient un petit peu moins que celles d'Hachem. Adam Rishon avait des facultés qui étaient un petit peu moins que celles d'Hachem, imaginez-vous. Cependant, on a perdu presque tout cela avec la faute d'Adam Rishon. Alors, entre parenthèses, Lorsqu'on parle de Adam Rishon, il s'agit de nous aussi. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que lui, il a fauté et nous, on doit payer et couper pour lui. Non, c'est que parce qu'en effet, toutes nos âmes, toutes nos neshamot, elles étaient dans Adam Rishon. Lorsque lui a fauté, c'est-à-dire que nous aussi, on a fauté. On est en train, maintenant, pendant 6000 années, en train de réparer sa faute. Mais bon, c'est un autre sujet. Ce qu'on veut dire ici, c'est que Hachem nous a créés avec des forces inouïes, qui sont presque aussi grandes que celles d'Hachem. C'est ce que les ministres ont compris lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils ont dit, « Vanveu et Edomelo, je veux ressembler à Hachem. » Ils ont compris quelle était en fait la finalité de la création du monde. Et ça, ce qui s'est passé en Égypte, eh bien, ça se renouvelle de nouveau chaque année pendant la fête de Pessah. C'est-à-dire que la fête de Pessah arrive, eh bien, on a la possibilité non seulement de sortir du fin fond de la Touma, de l'impureté du Yetzera, mais surtout, n'est-ce pas, de s'élever à des niveaux très élevés dans la Kdusha, dans la sainteté sanctification, c'est-à-dire d'exploiter ses facultés, ses forces que Hachem nous a données, nous a confiées. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il faut être conscient. Il faut être conscient qu'on a des forces inouïes qui dépassent notre imagination. Alors, pour concrétiser la chose, on va ramener quelques exemples. Il y a plusieurs histoires que, dans certains cas, une mère qui voit son enfant sur lequel est tombé un arbre ou une armoire, eh bien, c'est la mère même qui se précipite pour soulever cette armoire ou cet arbre pour sauver son enfant. Et tout d'un coup, elle a une force inouïe, une force gigantesque, qu'elle peut elle-même toute seule soulever cette armoire ou cet arbre. Ce n'est pas qu'elle ait une force nouvelle, c'est que cette force, elle l'avait auparavant, elle l'avait depuis toujours, mais cette force, elle était comme anesthésiée, endormie. Une fois qu'elle a été motivée par la vie de son enfant est en danger, elle veut le sauver, elle doit le sauver, et bien c'est là où elle a pu faire jaillir cette force qui était jusqu'à présent dissimulée, cachée en elle. Bien souvent, on peut se rendre compte qu'en période d'examen, eh bien, on arrive à des rendements, des scores extraordinaires. Vraiment, on arrive à se surpasser. Pendant quelques semaines, on est vraiment sous pression, on arrive à se compresser, se passer de loisirs, on ne perd pas de temps, ni avec les journaux, ni les médias, ni rien du tout. On passe peu de temps à dormir et à manger, parce qu'on va absolument décrocher l'examen. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à se surpasser, à se maîtriser, à dévoiler des forces extraordinaires qui étaient cachées en nous. Ces forces, elles existaient toujours. Mais jusqu'à présent, elles n'ont pas été motivées. C'est pourquoi elles étaient anesthésiées. Dès que ces capacités ont été motivées, suscitées par l'examen en question, eh bien, elles arrivent à jaillir, on les met en relief, on arrive à les exploiter. C'est pour nous dire qu'en effet, on a beaucoup de forces. Et ces forces et ces facultés, c'est des forces qui peuvent être physiques, morales, intellectuelles, spirituelles. Dans tous nos domaines, on a des capacités qui sont extraordinaires, mais qui sont cachées. Lorsque la fête de Pessah arrive, on te dit attention. Zman chelutenu. C'est-à-dire que maintenant, on peut sortir, on peut être libéré. La tset me avdout le chelut. C'est-à-dire quoi? Lorsque déjà tu veux avancer, tu veux progresser, tu veux améliorer. Alors attention, il ne faut pas avoir un plafond qui est très très bas. Lorsque tu imagines qu'en effet tu veux progresser, tu veux avancer, tu t'imagines une bonne tefila, une bonne mitzvah, une journée réussie, tu veux te libérer de tes averot, de tes mauvaises habitudes, de tes vices, tes défauts, tu veux à présent prendre un nouveau cadre dans ta vie, eh bien attention, il ne faut pas mettre un plafond très bas. Tu te dis voilà, demain je me lève, je fais une bonne tefila. Une bonne tefila pour toi, c'est quoi? Eh bien, lorsque je me concentre de A à Z, et je fais la tefila. Bon, c'est vrai, c'est bien, c'est extraordinaire en soi. Mais tu as un tort parce que ton plafond, il est très bas. Tu restes encore dans ta cave, tu restes au rez-de-chaussée. Tu peux monter premier, deuxième, troisième, quatrième étage. Quand tu veux aussi avancer, tu peux avancer beaucoup plus rapidement que tu n'imagines. Parce que tu as des forces, des facultés qui sont extraordinaires, mais qui sont cachées, qui sont dissimulées en toi. Il faut prendre conscience de cela, il faut les motiver, les susciter, les éveiller et les exploiter. Alors toute l'année, on peut réaliser cela. Mais lorsque la fête de Pessah arrive, c'est un moment qui est propice. En effet, on dit un tefila, Zman chelutenu. C'est le temps, n'est-ce pas, de devenir des hommes libres. Alors vous savez, l'esclavage et la liberté, ça commence, ça démarre dans la pensée, plus que dans l'action. En effet, ce qui s'appelle Surat HaShiva, la façon de penser, de réfléchir, c'est là où tu es un homme libre ou alors un homme qui n'est pas libre. C'est-à-dire quelqu'un qui s'imagine, n'est-ce pas, qui s'imagine des scores de rendement très très petits. Alors, il est, son imagination de réussite, elle est très très basse. Son plafond, il est très bas. Et c'est dommage. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque c'est très bas, tu ne peux pas aller plus haut. On ne peut pas réaliser plus que ce qu'on espère, ce qu'on aspire, à moins de gagner à la loterie d'un coup. Mais par un rendement, par une création, par une réalisation personnelle, on ne peut pas réaliser, on ne peut pas arriver à un rendement, à un score, bien plus qu'on imagine. Bien plus que cela, lorsque on aspire à une certaine réussite, à un score, un rendement de telle hauteur, de telle taille, alors automatiquement, consciemment, inconsciemment, c'est comme si on envoie un message à notre cerveau de mobiliser toutes nos facultés pour arriver à cela. C'est aussi prouvé, c'est que lorsqu'on dit « Oh, je peux pas, j'arrive pas, j'ai oublié, je réussis pas », eh bien, c'est comme si on envoie un message négatif à son cerveau. Et en effet, ça va nous inhiber, nous bloquer. Et au contraire, lorsqu'on se dit « Oui, je vais réussir, je vais essayer, je vais mobiliser mes forces, je vais faire un effort, je vais y arriver », eh bien, on envoie un message à notre cerveau d'exploiter les capacités qu'on a en soi. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va toujours réussir, mais au moins, on va bien plus réussir à exploiter les capacités qu'Hachem nous a confiées, qu'on nous a données. Alors, lorsque la fête de Pessah arrive, eh bien, c'est un moment qui est très propice pour cela. C'est-à-dire que, Zman Chelutenu, tu peux te libérer de la façon qui va être trop petite, trop mesquine de réfléchir, de penser. Tu peux transformer ton mode de réflexion, ton mode de pensée. Tu peux à présent espérer à des choses plus grandioses, à des choses plus réussies. Tu peux, à partir de Pessah, ça peut être, n'est-ce pas, pour aspirer à des ambitions bien plus élevées, bien plus grandioses, dans tous les domaines. Surtout dans le domaine de la Torah, mais c'est par rapport à notre personnalité. On peut, même dans le domaine de la vie courante, on peut des fois aspirer à des plus grandes réussites grâce à la fête de Pessah. Et ça, c'est une chérout, c'est une liberté extraordinaire. Il faut se rappeler que les Béni Israël en Égypte étaient des esclaves qui étaient fils d'esclaves, petits-fils d'esclaves. C'est-à-dire qu'ils n'ont connu que l'esclavage. C'était leur monde. Ils ne savaient même pas qu'il y avait le monde de la liberté. C'est-à-dire qu'être un homme libre, c'était pour eux une notion, une idéologie, une conception qui était au-delà de leur imagination. Parce qu'ils n'ont connu que l'esclavage. Et c'est pourquoi lorsque Hachem les a fait sortir, il y a eu, n'est-ce pas, vraiment une métamorphose de leur personnalité, de fond en comble, de A à Z. D'ailleurs, on voit que les Bnei Israël étaient tellement en exil, dit le Maharal, que même leurs paroles étaient exilées. Ce qu'on appelle l'exil de la parole. Les Bnei Israël ne parlent jamais. Il n'y a pas de dialogue entre eux et Moshe Rabbeinu. Ils écoutent Moshe Rabbeinu, ils croient pas, ils sont sceptiques. Quand est-ce qu'ils ont commencé à parler? Uniquement après la traversée de la mer Rouge. C'est là, en effet, ils sont devenus des hommes libres, ils ont commencé à croire à la liberté. Mais auparavant, c'était impossible parce qu'ils n'ont connu que l'esclavage. Alors sachez que pour nous aussi, c'est pareil. C'est que lorsque dans notre esprit, notre idéologie, notre imagination, on aspire à des rendements qui sont petits, qui sont bas. Et c'est ce qu'on a aspiré, c'est ce qu'on a aspiré depuis notre jeune âge. On n'a jamais espéré, on n'a jamais eu d'ambition qui était très élevée. Alors automatiquement, eh bien, on est pris comme dans cette façon de réfléchir qui est petite, qui est mesquine, et ça s'appelle, n'est-ce pas, un esclavage. On est asservi de cette idéologie qui est très petite et c'est bien dommage. Lorsque la fête de Pessah arrive, on te dit tu peux changer. Non seulement, c'est pas uniquement sortir d'un pays qui s'appelle l'Égypte, comme on l'a dit l'autre fois, ce qu'il faut faire sortir l'Égypte de ta propre personnalité. On dit en ivrite, Yetziat Mitzraim. Alors, si on traduit une traduction littérale, ça veut dire tu fais sortir l'Égypte. Parce que sortir d'Égypte, on aurait dû dire Yetzia mi Mitzrayim. Lorsqu'on dit Yetziat Mitzrayim, ça veut dire qu'on fait sortir l'Égypte. On fait sortir l'Égypte qui est en nous. Mitzrayim, c'est aussi Milashon Metzar. Metzar, c'est des limites, des barricades. Tu es trop barricadé, tu es trop limité par ta façon de réfléchir, ta façon de comprendre, ta façon d'imaginer les choses et le monde et la société. Dans le même ordre d'idée, bien souvent, on peut avoir une vision, une optique sur la société, sur les gens, les camarades, les voisins, la famille. Une vision qui est très très restreinte, très très minimisée, très mesquine. Des fois même par rapport à ses enfants. Quelqu'un, n'est-ce pas, un parent peut voir son enfant et ne pas avoir assez de foi, de confiance en ses capacités. On a l'impression, n'est-ce pas, qu'il n'est pas doué, qu'il n'a pas du talent, etc. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est que bien souvent, on peut véhiculer cette pensée, ce préjugé qu'on a sur l'enfant, à l'enfant lui-même. Lorsque des parents ou alors des maîtres vont véhiculer consciemment ou inconsciemment à un enfant ou un élève qu'il n'est pas doué, il n'a pas beaucoup de chances de réussir. Non, laisse tomber, tu n'y arrives pas. Non, n'essaie pas, ce n'est pas la peine d'essayer, tu vas le faire tomber. Enfin, même dans la vie courante, si une mère voit son enfant, n'est-ce pas, prendre un verre ou un plateau avec des verres, dit attention, ça tombe, tu vas les casser. Lorsqu'elle lui a dit tu vas les casser, eh bien, elle lui a véhiculé qu'elle ne croit pas en sa capacité de pouvoir prendre un verre ou un plateau de verre du salon à la cuisine sans les faire tomber. Et donc, ça va non seulement enlever l'assurance à un enfant, mais ça va lui enlever aussi la possibilité, la faculté de pouvoir en effet faire un effort, de faire attention, de faire cette besogne comme il faut. Alors, je ne dis pas que ça veut dire qu'on doit confier, n'est-ce pas, des objets en cristal aux enfants à tort à travers. Évidemment, n'est-ce pas, il faut les diriger pour décider quoi leur confier. Mais c'est toujours important de montrer à un enfant, à un élève, qu'on a confiance en ses facultés, ses capacités. C'est pourquoi, en effet, il faut leur demander, leur exiger, il faut leur confier uniquement des besoins, des devoirs, des éléments qu'ils peuvent réaliser, qui sont dans leur corde, dans leur faculté. Parce que si on va leur demander trop, alors là aussi, n'est-ce pas, c'est voué à l'échec. Et pour l'enfant, n'est-ce pas, échouer, ça va lui enlever cette assurance, cette ambition, cette aspiration vers des pôles plus élevés, c'est dommage. Alors lorsqu'on confie à un enfant, à un élève, des besoins, des éléments, des devoirs, pas des buts, des finalités qu'il peut réaliser, des fois même un petit peu au-delà de ses capacités, pour faire un petit effort. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on montre à l'enfant, à l'élève, c'est que je crois en ta capacité. Vas-y, essaye, tu peux y arriver, vas-y. Fais un effort, tu y arriveras. Et s'il n'arrive pas, s'il trébuche, c'est pas grave. Relève-toi, tu es tombé, n'est-ce pas? C'est aussi se précipiter vers un enfant qui est tombé. Oh mon petit chou, tu t'es fait mal. Eh bien, on se met à le caresser, à avoir pitié de lui. C'est dommage. Parce que si on fait ça de trop, eh bien, ça va enlever à l'enfant cette initiative de pouvoir surmonter les difficultés de la vie. Il est tombé, il s'est fait mal, c'est pas grave, lève-toi, vas-y. Bon, il est sûr que dans certains cas, n'est-ce pas, on doit lui s'occuper, on doit lui gâter un enfant, je ne dis pas non. Mais, de façon générale, c'est très important de lui montrer qu'on a confiance en lui, en ses capacités. S'il a réussi, le faciliter, l'encourager, et lui dire, vas-y encore une fois, tu peux arriver encore plus loin, encore plus haut. Et s'il a échoué, c'est pas grave. Et aussi l'aider. Pourquoi ça n'a pas marché? À cause de ci, à cause de cela. Essaye de nouveau encore une fois, en faisant attention de ne pas faire la même erreur, tu vas y arriver. Tu peux y arriver, je te fais confiance. Lorsqu'on a dit cela à un enfant, lorsqu'on lui a montré cela, et bien automatiquement, non seulement on lui a donné plus d'assurance, mais on a envoyé un message à son cerveau qui va l'aider à exploiter les capacités, les facultés que Hachem lui a données. Parce que, comme on l'a dit auparavant, c'est qu'on a beaucoup de capacités. Mais très souvent, elles sont endormies, elles sont anesthésiées. C'est la Gemara dit. En adam met, vachatsi, ta'avato biado. C'est-à-dire qu'un homme n'est jamais satisfait toute sa vie de ce qu'il a. S'il a 100 pièces d'argent, il en veut 200. Il en a 200, il en veut 400. Alors en fait, les commentateurs expliquent que ce trait de caractère, cette caractéristique de l'être humain, hein, c'est pas quelque chose de négatif a priori. Au contraire, c'est très positif. Hachem a créé l'être humain avec une ambition de vouloir toujours avancer, toujours progresser. Tu as décroché un examen, tu vas encore un autre. Tu as réussi cela, tu vas encore avancer. Enfin, tu as gagné cette course, et bien tu veux aller encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort. On veut toujours avancer. Alors évidemment, si on arrive à orienter, à diriger cette caractéristique vers des pôles qui sont spirituels, qui sont dans le domaine de la morale et de l'intellectuel, et bien automatiquement, c'est bénéfique, c'est extraordinaire, c'est efficace. Mais si c'est dirigé uniquement vers des pôles qui sont matériels, qui sont financiers, alors évidemment, n'est-ce pas, on va sombrer beaucoup trop dans ces pôles-là qui ne vont pas aider une personne à avancer, à s'élever spirituellement, et c'est dommage. Mais a priori, c'est un trait de caractère qui est positif pour l'être humain. Que Hachem veut te faire avancer constamment. Il ne faut jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Alors lorsque la fête de Pessah arrive, Zman Chelutenu, cette liberté, c'est une liberté de l'esprit. La Torah nous dit, il y a quatre langages de Geoula. Arba, Leshon Shel Geoula. Votseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Alors le premier c'est Votseti. Faire sortir les pays Israël d'Égypte. Alors disent les commentateurs que la première Geoula, à quoi elle consiste? Elle consiste à la Geoula de l'esprit, délivrance de l'esprit. C'est-à-dire quoi? D'abord, Hachem a dit à Moshe, il faut expliquer aux Bnei Israël, leur faire prendre conscience qu'ils sont des esclaves. Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils vivent dans leur propre cave. Ils n'ont connu que l'esclavage. Ils connaissent que ça. C'est leur monde. Il n'y a pas un autre monde. Ils ne savent pas ce que c'est la liberté. Être conscient, n'est-ce pas, qu'on vit dans un système qui nous limite la façon de réfléchir et de penser, c'est déjà une première étape vers la Geoula. Deuxième étape, eh bien, mets-toi à changer, à transformer ta conception, ton idéologie, ta façon de penser. Commence à espérer, à aspirer à des pôles plus élevés, plus nobles, extraordinaires. Commence à avoir des ambitions dans le domaine intellectuel, spirituel, etc. Et tu verras que tu vas transformer ta vie de fond en comble. Et ensuite, n'est-ce pas, sortir d'Égypte, alors bon, c'est ensuite une étape concrète à réaliser, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord la liberté de l'esprit, la façon de réfléchir, de penser. Alors, comme on l'avait dit dans les premiers cours, c'est que lorsque, de nos jours, on subit, qu'on le veuille ou non, un lavage de cerveau par tous les médias, et on nous a habitués, n'est-ce pas, à réfléchir, à penser de telle ou telle façon. Alors ce qui se passe, c'est que c'est des fois difficile pour nous de changer notre capacité, notre faculté de réfléchir, de penser autrement. Et là, on doit faire un effort, et on peut réaliser cela pendant Pessah, avant Pessah, c'est de transformer cette idéologie, cette façon de penser. Et attention, c'est ma'avdout l'echlou. Tu peux sortir de cet esclavage, de cette façon trop basse, trop limitée de réfléchir. Fais sortir cette Égypte de toi, n'est-ce pas, ces barricades, cette structure qui te limite, et commence à aspirer à des pôles plus élevés. Alors, en effet, il faut cependant être prudent. Comme tu avais dit non auparavant, c'est que lorsqu'on se met à aspirer, à avoir des ambitions très élevées, il y a plusieurs dangers, il y a plusieurs pôles à éviter. Alors, pour expliquer cela, on va ramener la fameuse échelle de Yaakov Avinu. On sait bien que Yaakov Avinu, en sortant de chez ses parents, après avoir étudié 14 ans dans l'échelle des chemins verts, eh bien, il se dirige vers la maison de Lavan. Et bah, il s'allonge, il dort, n'est-ce pas, à Ramouria, et il fait un rêve. Il voit dans le rêve une échelle qui est plantée au sol, et qui monte jusqu'au ciel. Alors là, il y a dans cette échelle plusieurs émazines, plusieurs allusions. C'est en effet pas cette échelle de Yaakov, c'était comme un guide, une orientation que Hachem lui a donnée pour toute sa vie. Puisque Yaakov, à présent, n'est-ce pas, une fois qu'il s'est bâti pendant 14 ans de Yeshiva, Hachem Ve'ever, il va à présent se marier, il va à présent, n'est-ce pas, bâtir un foyer, il va commencer à bâtir, à construire l'âme Israël, il va aller se marier avec Rachel et Léa, pour bâtir un Israël, eh bien Hachem, n'est-ce pas, lui donne plusieurs orientations par allusion. Alors cette échelle, elle est plantée au sol, mais elle va jusqu'au ciel. C'est-à-dire que Hachem dit à Yaakov, eh bien, il faut avoir des ambitions, surtout dans le domaine de la Torah et des mitzvot, qui vont jusqu'au ciel, c'est-à-dire à l'infini. Il ne faut jamais s'arrêter. Tu as fait une maserhet, fais encore une autre. Enfin, tu l'as fait deux fois, fais-la 10 fois, 20 fois, 101 fois, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors, dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, dans la tefila, dans la tshuva, surtout dans les notions spirituelles, c'est infini. C'est-à-dire que tu peines pas, tu peux chaque fois intensifier ta concentration, ton effort, ta ira, la crainte de Dieu, l'amour envers Hachem, n'est-ce pas, le fait de l'écoute d'Hachem, le fait d'être proche d'Hachem, etc., etc. Une fois que tu es arrivé vraiment à un niveau maximal, eh bien tu peux toujours continuer à réparer ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait auparavant. La tshuva, c'est une mitzvah qui est infinie. Elle est infinie, parce que tu peux toujours pas encore plus réparer ce que tu as perdu auparavant. C'est deux sens qui sont infinis. Alors, ce que Hachem dit à Yaakov, l'échelle, elle va jusqu'au ciel, il faut avoir des ambitions qui sont infinies. Deuxième remèze, Hachem dit à Yaakov, attention, parce que très souvent, lorsqu'on est trop ambitieux, alors on peut des fois perdre la notion de la réalité. On est trop idéaliste et on oublie le terre à terre, on oublie le concret, on est un peu déconnecté. Et on n'arrive pas des fois à être en contact comme il faut avec la société. Ou alors on oublie la réalité. On fait des erreurs, des bêtises qui peuvent être fatales. Alors là, tu dis attention. L'échelle, n'est-ce pas, elle a deux pieds. Elle est plantée au sol. Alors un pied au sol pour te dire, il faut, n'est-ce pas, aussi avoir pied à terre. Il faut être aussi réaliste. Il faut aussi avancer selon tes capacités. Des fois, n'est-ce pas, on ne peut pas être déconnecté du monde matériel. Et il faut, n'est-ce pas, être conscient de cela. Il faut aussi pouvoir, n'est-ce pas, avoir un contact avec la société comme il faut. Troisième remède, c'est que cette échelle, elle a encore un autre pied qui est planté au sol. Parce que lorsqu'on est trop idéaliste, on a trop d'ambition, et surtout si on réussit, si on arrive à les réaliser, alors on peut tout d'un coup être trop vaniteux, trop orgueilleux. Parce qu'on a tellement bien réussi, on avance, on progresse, alors on réussit dans tous les domaines de la vie, alors on devient trop orgueilleux. Là, on se dit, attention, n'est-ce pas, il faut avoir un pied sur terre. C'est aussi un remède pour la modestie. Il faut garder, n'est-ce pas, sa modestie, ne pas trop s'enorgueillir. Et quatrième remède, ce qui fait avancer dans la vie, comme on avance sur une échelle, échelon par échelon. Maximum, tu peux grimper 2 ou 3 échelons d'un seul coup. Mais si tu veux grimper, n'est-ce pas, 4, 5, 10 échelons d'un seul coup, ça ne marche pas, et bien tu risques de faire une chute fatale jusqu'au sol. C'est-à-dire que là aussi, dans la vie, il est vrai qu'il faut avoir des ambitions qui sont portées très très haut. Jusqu'au ciel, c'est à l'infini. Mais cependant, pour avancer, il faut avancer lentement et sûrement. Échelon par échelon. Échelon par échelon. Non seulement c'est pour éviter, n'est-ce pas, des chutes fatales, mais ça peut aussi te garantir la réussite que tu pourras avancer. Imaginez quelqu'un qui fait de l'haltérophilie. Alors, s'il soulève, n'est-ce pas, 50 kilos, il va essayer, il dit 50 kilos, c'est pas assez, il prend 100 kilos, 120 kilos. Alors, il n'arrivera pas à avancer. Il pourra pas bouger. Alors que, s'il est intelligent, eh bien, il prend, il dit 50 kilos, eh bien, j'ajoute 500 grammes ou 1 kilo, n'est-ce pas? Là, il fait un effort, un petit effort, et il arrive à les soulever. Une fois qu'il s'est habitué pendant quelques jours, quelques semaines, il ajoute encore 1 kilo, etc. Pas aussi pour nous dans la vie. Ce qu'il faut avancer, il faut viser le maximum. Il faut les ambitions jusqu'au ciel. Mais avance échelon par échelon. Ça veut dire, fais un effort tous les jours. Un petit effort dans la tshuva, dans la Torah, la tefila, les mitzvot. Ce qui est important, c'est surtout maintenir l'effort. La persévérance, l'assiduité, la continuité. Il faut avancer, ne pas régresser, ne pas descendre de l'échelle, même ne pas stagner, mais avancer, mais cependant, échelon par échelon, petit à petit, ce qu'on appelle lentement et sûrement. Si tu avances lentement, eh bien, ton ascension, elle va être sûre et certaine, tu pourras être sûr de toi, tu pourras même acquérir les domaines différents que tu vas aborder dans la vie spirituelle, ils vont t'appartenir réellement. Non, c'est-à-dire que bien qu'on doit, n'est-ce pas, grâce à la fête de Pessah, changer d'idéologie, changer de conception, se mettre à réfléchir autrement, vraiment ne pas avoir un plafond qui est trop bas, ne pas avoir des ambitions qui sont trop basses, au contraire, les élever au maximum possible. Savoir, n'est-ce pas, qu'on peut tout avoir. Ce que lui a fait, je peux aussi moi le faire. Ce que les grands génies de l'univers ont réalisé, je peux aussi le faire. Ce que les Gdolei Torah, les Yir'a, ont réalisé, je peux aussi le faire. C'est les grands tzadikim, n'est-ce pas, qui avaient une vie, n'est-ce pas, de Kodesh Kodashim, dans la crainte d'Hachem, dans Avat Hachem, d'écoute d'Hachem, dans la Torah de Fila, je peux aussi le faire. Mais si on arrive à exploiter nos facultés au maximum, eh bien on peut arriver à être des génies en Torah. Des génies en Yirat Hashem, en Vat Hashem, dans tous les domaines. Et là, bien que c'est vrai toute l'année, mais la fête de Pessah, c'est un moment qui est très propice à cela. Zman Chéroutenu, il faut s'y libérer de cette façon trop mesquine de penser, de réfléchir. Mais cependant, n'est-ce pas, on l'a dit, il faut avoir les pieds à terre, il faut aussi être réaliste, il faut aussi être modeste, et il faut aussi avancer échelon par échelon. Alors si on arrive à réaliser tout cela avant la fête de Pessah et pendant la fête de Pessah, eh bien, on peut, Bezrat Hashem, arriver à réaliser ce que nous dit la Gada, chez Lirot Tatsmo, Kilotem Tzreim, c'est que de considérer comme si nous-mêmes, on est sortis d'Égypte.